Le journal, Mimi Ngumba.
Bonjour à tous. D'abord le titre du journal. Ouvira de Congolais retraverse la frontière vers Bujumbura après avoir passé 3 nuits à cet endroit. Ces Congolais résidant au Burundi étaient venus au pays pour leur enrôlement. Une équipe d'experts de la sécurité portuaire et maritime américain depuis ce matin à Matadi au Bas-Congo. C'est pour évaluer les conditions sécuritaires dans 3 ports de cette province. Suite de l'incident survenu au stade des jeunes des Katoka à Kananga week-end dernier faisant 6 morts, les ONG des droits de l'homme réagissent. Elles condamnent l'attitude de la police. Près d'Uvira dans la province du Sud Kivu, plusieurs centaines de Congolais résidant au Burundi repassent lentement la frontière burundaise. Selon l'officier de liaison de la mission des Nations Unies au Burundi, les autorités burundaises ont accepté ce matin de laisser passer les Congolais en petits groupes et sous surveillance militaire. Ils avaient acheté un jeton pour entrer en RDC pour se faire enrôler, mais au retour, c'est un laissez-passer qu'il fallait présenter pour entrer au Burundi. Témoignage de l'un d'eux. Pendant sur ces 3 jours d'attente, il est au micro de Charlotte Ngungi Selemani.
Nous quittons le Burundi vers le Congo pour aller s'enrôler. Quand on arrive à la frontière burundaise, on demande 1000 francs par tête pour tous les Congolais qui vont au Congo. Alors, nous sommes déjà enrôlés. En rentrant maintenant, nous sommes arrivés aujourd'hui à la frontière congolaise. On nous a bloqués là-bas en disant qu'il faudrait que chacun de nous achète le laissez-passer. Au moment où nous n'avons pas, ne fût-ce que 100 francs bout. Femmes et enfants, on a tous passé la nuit en belle étoile. On a passé la nuit à la frontière congolaise.
Sachez aussi que les services d'immigration burundais semblent avoir été débordés par le passage en masse de plusieurs centaines de candidats à l'enrôlement. Ils auraient donc voulu filtrer le retour de ces Congolais vers le Burundi. Éducation à présent, des négociations depuis hier lundi entre la commission gouvernementale dirigée par le vice-président Jean-Pierre Bemba et le syndicat des enseignants de l'EPSP. Rien n'a filtré de ces entretiens. Les grands absents de ce rendez-vous, le CINECAT, le syndicat des écoles conventionnées catholiques et le CIECO, le syndicat des enseignants du Congo, les 2 syndicats à l'origine du mot d'ordre de grève. Ce dernier exige de négocier seul avec les gouvernements. Jean-Pierre Kimbuya, secrétaire national du CIECO, l'a dit au micro de Innocent Olenga.
Il est de notoriété publique qu'il n'y a que les CIECO et les CINECAT qui avaient décrété la non-reprise des travaux dans le secteur public de l'EPSP et sous mandat de leurs affiliés au cours des différentes assemblées générales, tant à Kinshasa qu'en province. Et il serait malvenu que d'autres syndicats qui n'ont rien à voir avec l'action qui se passe sur le terrain, ces syndicats sont des syndicats dirigés par des chefs d'établissement, par des inspecteurs. Vous comprenez qu'ils sont représentants de l'employeur. Les vrais enseignants n'étaient pas représentés là-bas. Nous avons claqué la porte parce que ces négociations commencent déjà ces fonds de crise. Toutefois, nous sommes disposés pour discuter franchement avec le gouvernement, de telle manière que l'enseignant puisse trouver son compte.
Avec ou sans CINECAT et CIECO, les négociations se sont ouvertes dans un climat de sérénité, a affirmé pour sa part Désiré Tshibwabwa, président national de la FENACO, l'un des syndicats présents à ces négociations. Il est aussi au micro de Innocent Olenga.
Vous croyez que la FENACO, UNTC, la CEC ou encore l'INECO, SEC, etc. ne sont pas les syndicats des enseignants. Mais je voudrais vous dire que la grève, c'est pendant le cours qu'on déclare la grève. Nous avions déclaré le boycott de la rentrée. Et maintenant que le partenaire a compris que la situation était sérieuse et qu'il nous a invités, et la plus haute autorité, vous croyez que nous avons blagué?
La garde de côte américaine depuis ce matin à Matadi dans le Bas-Congo, elle est venue évaluer les conditions sécuritaires dans les 3 ports de Matadi, Boma et Banana. La délégation est notamment composée des 2 experts et du conseiller économique de l'ambassade des États-Unis en RDC. Rappelons que la garde de côte américaine a menacé de fermer les ports congolais qui ne répondraient pas aux normes des sécurités internationales. Mais d'après les directeurs techniques de l'ONATRA Bas-Congo, les ports congolais pourraient échapper aux sanctions de la garde américaine. On écoute Médar Timba au micro de Jean-Claude Toumba Kamanga.
Je crois que nous sommes déjà pratiquement à un bon niveau. La première étape, c'était d'abord la clôture. Ça a été fait, on a clôturé tout le port, c'est barricadé totalement, c'est divisé en trois zones. Il y a la zone d'interface navire-port, ça fait la zone A. La zone où on fait les formalités administratives, c'est la zone B. Et il y a l'extension qui est la gare des chemins de fer, ça c'est la zone C. Alors la zone d'interface est totalement barricadée et c'est là où il y a une grande sécurité et un grand contrôle. La zone d'interface, c'est la zone qui reçoit les navires. Et là, on soumet pratiquement tout véhicule et tout passage à un contrôle rigoureux. Là.
En quoi va consister justement le contrôle de cette garde américaine? Elle va faire quoi concrètement dans les ports?
Elle est venue voir l'état d'avancement de notre engagement en rapport avec le code d'espèce. Et ils vont nous formuler certaines remarques pour que nous puissions améliorer. Mais ils savent bien qu'il n'y a aucun pays qui est pratiquement à mesure de dire qu'ils sont en prêt avec le code d'espèce. Mais est-il que, avec tout ce qu'ils vont évaluer tantôt, je pense que d'ici la fin de l'année, nous pourrons sortir de cette liste noire-là à laquelle nous sommes soumis. Nous pourrons pratiquement ne plus être frappés comme c'était prévu.
Au Kassai oriental, on parle plutôt de l'ouverture ce mardi de trois axes routiers de desserte agricole, réhabilités par le Bureau des services d'appui au projet des Nations Unies, UNOPS. Ces routes faciliteront l'évacuation des différents produits vers les centres urbains. Longtemps abandonnés, ces tronçons des terres battues sont de nouveau praticables. Le point avec Nikem Poutou.
Le maïs, le manioc, l'aubergine et autres produits agricoles de Kabeaka Mwanga et ses environs atteindront désormais Mbujimayi sans peine. Cela grâce à la réhabilitation de trois axes principaux, notamment l'axe Djibungi, Mission Mérode, l'axe Chinchanku, Kabeaka Mwanga et l'axe Lac Mukamba, Mupompa, ce qui fait au total 125 km réhabilités. Pour l'ingénieur routier de l'UNOPS, François Itumu, les trafics seront facilités entre les deux Kassai grâce à cette réhabilitation, car depuis près de 20 ans, l'évacuation des produits passait par des chemins contournés. C'est avec la main-d'œuvre fournie par les ONG locales que ces travaux ont été réalisés. Notons que cette route clôture le premier programme de réhabilitation d'environ 200 km de route de desserte agricole dans le Kassai oriental. Le prochain programme est annoncé pour le mois prochain, mais les tronçons restent à déterminer. Mbujimayi, Nikem Poutou, Radio Okapi.
Katanga, prison, bagarre rangée hier lundi entre deux cortèges funèbres. L'incident s'est produit quand un cortège conduisant au cimetière, un proche d'un membre influent du PPRD Katanga, a voulu dépasser un cortège funèbre d'un membre de l'UNAFEC. Après des brèves invectives, les deux parties en sont venues aux mains. La bagarre a fait au moins deux blessés sérieux, dont l'un par balle. Pour calmer les jeux, les gouverneurs de province ont réuni dans la soirée les deux parties. Des précisions, Paul Kaboba.
Devant la répétition des actes du même genre, le gouverneur de la province du Katanga a instruit le maire de la ville de Lubumbashi et la police nationale de sévir avec rigueur contre tous ceux, des partis politiques ou d'autres qui perturbent l'ordre public, qui sous l'angoï met dans le même sac ceux qui ont provoqué ces incidents et ceux qui ont utilisé les armes.
Nous condamnons avec le conseil provincial de sécurité qui s'est réuni hier pour plusieurs problèmes. Nous avons condamné le comportement de ceux qui ont utilisé les armes. D'abord, ceux qui ont créé le désordre et ceux qui ont utilisé les armes devant les populations sans armes. Et il n'appartenait pas aux individus de se régler les comptes.
Pour revenir à l'incident lui-même, il a eu lieu aux environs de 12 heures heure locale. D'après les membres de l'UNAFEC, l'autre cortège funèbre voulait les dépasser alors qu'ils se trouvaient à un passage étroit, juste à la sortie d'un pont. Selon M. Kibwe Kikuji, membre du PPRD et ancien PDG de la CNCC et auteur des coups de feu, il a tiré pour se sortir du danger, car des membres de l'UNAFEC l'auraient entouré avec des menaces. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Comme annoncé dans le titre, les drames du stade des jeunes de Katoka à Kananga le week-end dernier a fait l'objet hier lundi d'une réunion du comité provincial des sécurités. Les autorités provinciales du Kassai occidental ont établi les responsabilités dans cette affaire qui a fait 6 morts. Pendant ces temps, les ONG de droits de l'homme condamnent la police pour avoir utilisé des gaz lacrymogènes. Les détails, Julien Niamouni.
Les autorités provinciales du Kassai occidental, dans une réunion extraordinaire élargie convoquée lundi par le chef de l'exécutif provincial, Claudel André Loubaya, ont condamné avec fermeté la tentative de forcer la barrière de sécurité par des supporters de l'Union sportive Tinkoku. D'après l'examen des différents rapports sur ce drame qui a coûté la vie à 6 personnes, plusieurs blessés, le comité provincial de sécurité tient pour responsables les auteurs de jets de projectiles non seulement en direction des officiels du match, mais aussi de la police. police. Pourtant, la rencontre s'est terminée en toute beauté. En revanche, les organisations non gouvernementales des droits de l'homme ont condamné la police pour l'usage des grenades lacrymogènes. Dans une déclaration rendue publique lundi soir, Edel Martin Kabuta-Kapwa, président du réseau Jeunes dans le monde pour la paix, qualifie l'usage de ces gaz dans un milieu fermé comme, je cite, un acte de terrorisme et de génocide. Fin des citations. Autant l'ONDH, Observatoire national pour les droits de l'homme, qui condamne les moyens utilisés par la police provinciale. Trudon Ntumba, président provincial de l'ONDH.
On aurait pu ne pas pleurer à ce jour les morts. Mais comment voulez-vous qu'on lance les gaz lacrymogènes devant des gens désarmés après une rencontre qui s'est terminée en bonne et due forme? C'est cela que nous disons. Nous condamnons l'usage des moyens de la peine, ceux qui n'ont malheureusement pas été proportionnels aux dégâts.
Deux mesures draconiennes ont été annoncées. Fermeture du stade de jeunes jusqu'à nouvel ordre à toutes les compétitions jusqu'à la réhabilitation et la reconstruction du mur écroulé. Julien Diamouini, Kananga, Radio Okapi.
Il faut formuler des messages et des propositions concrètes en rapport avec la lutte contre la violence faite aux femmes. C'est l'objet principal du séminaire qu'a tenu la commission de l'initiative conjointe du Maniema. Et selon cette commission, le dernier cas de viol rapporté par l'Association des développements des initiatives de femmes date d'une semaine seulement et a eu lieu à Katako. Mathieu Ilunga, reportage.
Les drames ont eu lieu il y a environ 7 jours à Katakokombe, une localité située à 7 km de la ville de Kindu. Une fillette de 12 ans a été victime de violences sexuelles et le bourreau est un homme de 50 ans. Dans le cadre des plaidoyers d'élite contre la violence sexuelle, M. Émile Hassan Miango, le président de cette commission, témoigne.
Une structure qui est membre de la synergie dans la commission juridique, c'est qui nous a apporté l'information, c'est l'association ADIF.
Dans le même ordre d'idée, Madame Elisabeth Tcheoussi, une des participantes, s'est plainte de l'impunité des auteurs des violences faites aux femmes.
Ces femmes victimes, leurs plaies sont encore ouvertes, des plaies encore saignantes, puisque depuis que ces actes ont été commis, il n'y a pas vraiment une prise en charge pour ces mamans. À présent, nous élaborons seulement le message que nous adressons aux décideurs, aux officiers militaires, politico-administratifs et autres, pour trouver quand même des solutions aux problèmes de ces mamans.
Il faut noter que plusieurs propositions de messages sont formulées dans le but de trouver une solution pouvant mettre fin à la violence sexuelle. Kindu, Mathieu Ilunga Chamboyo Monachebe, Radio Okapi.
La fourniture d'électricité à Bounia en Ituri, toujours perturbée depuis le week-end dernier, certains quartiers de la ville sont dans le noir et dans d'autres, ce sont des coupures intempestives. À la Société nationale d'électricité, comme à l'Office de mines d'or de Kilomoto, qui respectivement gère et produit cette électricité, on parle d'une panne technique à la centrale de Boudana. Pour sortir cette centrale de panne à répétition, quelques Ituriens se sont réunis hier lundi en atelier en vue de plaider pour sa réhabilitation. Paul-Richard Malengela.
C'est depuis le week-end passé que les habitants de Bounia sont dans la consternation. Nombre d'abonnés de la SNEL passent surtout de longues soirées dans l'obscurité. D'autres encore affirment voir passer l'électricité chez eux comme un éclair. Désolation de ses habitants.
Comme cette fois-ci, nous manquons le courant électrique, vraiment les gens souffrent.
C'est pas intéressant, imaginez-vous, la sécurité est liée aussi à la lumière. Non seulement ça, nous avons des appareils électroménagers qui doivent tourner. Nous sommes durant la période de crue, le courant ne nous arrive pas comme il faut. Nous sommes vraiment désolés.
La nouvelle panne risque d'être fatidique si rien n'est fait le plus tôt possible. Voilà pourquoi les ressortissants du district, au sein de l'association des Ituriens, Associtouri, ont réfléchi ce lundi pour un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds, notamment auprès de l'expert envoyé à Bounia par l'Union européenne, pour une étude de faisabilité et un rééquipement de la centrale. Marie-Charlotte Bonabana, présidente de l'Associtouri, exprime quelques recommandations des participants à cet atelier.
Que l'Union européenne, comme il ne peut pas la reconstruire, qu'il puisse seulement la réhabiliter. Et puis la bonne gestion de cette centrale, quand elle sera réhabilitée, que l'Okimo aussi puisse s'impliquer pour la réhabilitation de cette centrale. La population qui vole des fils pour aller les vendre à l'extérieur, que ce système cesse.
Les participants devront continuer à sensibiliser leurs acteurs politiques, la communauté internationale et la population à un éveil de conscience. Ceci en vue de la réhabilitation rapide de la centrale de Boudana pour la reconstruction de l'Ituri. Bounia, Paul-Richard Malengela, Radio Okapi.
À propos de l'électricité toujours, mais cette fois en dehors de nos frontières, le gouvernement centrafricain s'est doté d'une agence autonome des régulations du secteur de l'électricité en Centrafrique afin d'améliorer la fourniture d'énergie dans ce pays victime de délestage. Selon un décret présidentiel, l'organe a pour mission de favoriser la satisfaction de besoins énergétiques de consommateurs dans une perspective de développement durable en tenant compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales. Exactement 12h15 à Kinshasa. Merci d'avoir suivi cette édition d'information.